Il y a 25 ans, donc le 24 mars 1999, l'OTAN débutait ses bombardements sur la Yougoslavie dirigée à l'époque par Slobodan Milosevic. 3 ans après la fin des guerres en Bosnie et en Croatie, le dirigeant nationaliste serbe était accusé de préparer une nouvelle campagne de nettoyage ethnique au Kosovo. La guerre y faisait rage entre son armée et la guérilla indépendantiste albanaise. Pendant 2 mois et demi, l'OTAN va bombarder des cibles militaires, mais les frappes feront aussi des centaines de morts côté civil. 25 ans après, le souvenir de ces bombardements est toujours bien présent dans la société serbe, dont une grande partie n'accepte toujours pas l'indépendance du Kosovo proclamée en 2008. Et dans une Serbie peuplée en majorité de Slaves orthodoxes, le conflit en Ukraine à raviver le sentiment anti-occidental. C'est ce que vous allez découvrir à travers ce reportage à Belgrade, réalisé par Louis Seyé.
Ciao, dobar dan. Ciao, ciao.
Bonjour, dobar dan. Ciao, ciao.
Bonjour, je suis Ludmila.
Diane, désolé du retard. Voilà, c'est ici que l'on s'est rencontrés, Ludmila et moi, il y a 25 ans, le 24 mars 1999. C'était notre premier rendez-vous, exactement à cet endroit. On ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'il se passait au niveau politique, mais d'un coup, on a vu les premiers avions de l'OTAN, les premiers tirs. Puis on a entendu les premières sirènes. On a aperçu les gens en bas du parc qui allaient dans des refuges. Il y avait un club près de la Sava et on voyait que les gens y allaient avec des couvertures. Et au bout d'un moment, les sirènes retentissaient en continu. C'était le signe que ça commençait.
Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ces sirènes ?
En fait, quand on s'est retrouvés, Dejan voulait me montrer l'endroit où il était né. C'est l'un de ses bâtiments, en face, à Novi Beograd. Et ici, dans le parc, il y avait une belle vue. Quand on est arrivé, c'est là que le bombardement a commencé, avec des éclairs et des tirs anti-aériens. À ce moment-là, on ne pensait pas que c'était des bombardements. On se disait que c'était des feux d'artifice et que c'était idéalement romantique pour notre rendez-vous. Mais une fois que les bombardements ont commencé, on est allé se réfugier chez moi, à la maison. Et mon frère m'a confirmé que les frappes de l'OTAN avaient commencé. Ces années-là étaient déprimantes, il y avait constamment des mauvaises nouvelles. Donc je ne savais pas ce qui allait encore arriver avec ces bombardements.
Oui, c'était comme l'apogée de la décennie, celle des années 90. C'était le dernier chapitre de cette époque. Bien sûr, en Serbie, il n'y avait pas de guerre, comme en Bosnie, au Kosovo et en Croatie. Mais aux informations, on voyait constamment des images, des avions et des combats.
Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 24 mars. Les frappes aériennes de l'OTAN sur des cibles serbes sont en cours depuis quelques minutes. C'est une agence italienne qui vient d'annoncer. C'est donc désormais un engagement militaire des forces alliées. Malgré d'ultimes déclarations et tentatives diplomatiques, la Russie de Boris Eltsine a averti que ces frappes provoqueraient, selon M. Eltsine, une guerre en Europe. Et puis les Serbes s'apprêtent à riposter.
Le 24 mars 1999, l'OTAN débute une campagne de bombardement aérien contre la Yougoslavie. L'Alliance Atlantique veut mettre fin à la répression des Kosovars albanais. À l'époque, cette région du sud de la Serbie est le théâtre d'affrontements entre les forces du régime nationaliste de Slobodan Milosevic et la guérilla indépendantiste albanaise. 3 ans après la fin de la guerre en Bosnie, les Occidentaux craignent de nouvelles campagnes de nettoyage ethnique menées par l'armée yougoslave et une extension du conflit à la Macédoine.
Tout a été fait pour faire prévaloir une solution de raison, une solution de paix. Une solution conforme aux droits de l'homme. Tout. Devant l'obstination injustifiable et incompréhensible du président Milosevic, les alliés unanimes ont estimé qu'il n'y avait plus d'autre choix.
À Rambouillet, les négociations échouent et le président serbe refuse l'ultimatum américain. Sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, l'OTAN lance l'opération Force Alliée. Pendant 11 semaines, l'Alliance procédera à plus de 10 000 bombardements sur la Serbie, le Kosovo et le Monténégro. 25 ans après, ces frappes sont toujours un traumatisme pour la société serbe. À l'époque et encore aujourd'hui, Dejan Ubović et Ljudmila Stratimirović sont actifs dans la scène culturelle de Belgrade et opposés au régime nationaliste en place.
Aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire que ces bombardements n'ont pas duré si longtemps, mais on se sentait si isolé. Tous les jours, je commençais à pleurer et on se demandait quand ça finirait et quand tout irait enfin bien. On ne peut pas dire qu'on s'attendait à ce que les choses s'améliorent. C'était vraiment la pire des solutions de nous bombarder.
Surtout que, comment dire, tu es contre le pouvoir de Milošević. Depuis des années, tu es présente aux manifestations contre la police. Donc, on était contre tout ce que faisait ce régime avec cette police qui persécute. Et puis, les bombardements commencent. Et alors là, vous vous trouvez dans cette situation douloureuse et vraiment incroyable. Et maintenant, c'est nous les civils qui sont bombardés. Ce n'est pas normal. C'est un peu schizophrène comme situation. Et les gens étaient en colère contre l'Occident parce que ce n'était pas normal, on ne le méritait pas.
Aujourd'hui encore et pendant toutes les guerres, les décisions sont prises contre un pays et une société tout entière. Mais ceux qui prennent ces décisions ne pensent pas aux civils. En Serbie, il y avait tellement de gens qui, pendant des années, avaient refusé de servir le régime et qui ont fui les mobilisations et ils ont disparu, ou parfois leurs proches. En Serbie, on se trouve quelque part entre l'Ouest et l'Est. Ça a toujours été une zone de turbulence.
Oui, je pense qu'une énorme erreur a été commise à l'époque, mais aussi plus tard. Ces bombardements ont profondément marqué les gens qui étaient un peu indécis entre l'Ouest et l'Est. Ils s'en souviennent. Encore l'autre jour, j'étais à l'hôpital et l'une des employées me parlait de sa voisine qui souffrait des conséquences de ces bombardements à l'uranium. Donc, le sujet n'est toujours pas clos. Les Occidentaux n'ont toujours pas dit « Ok, nous avons fait des erreurs ». Milošević était notre cible, mais beaucoup de gens qui ne le méritaient pas ont été victimes de ces bombardements. Ce sentiment persiste au fil des années.
Le bilan des frappes et des victimes civiles n'a jamais été officiellement établi. Il varie de 500 morts, essentiellement des Kosovars albanais selon l'ONG Human Rights Watch, à 2500 selon les autorités serbes. 25 ans après, sous la présidence d'Aleksandar Vučić, le souvenir des bombardements est évoqué presque quotidiennement dans les médias serbes. Le dirigeant populiste était lui-même à l'époque le ministre de l'Information de Milošević.
10 morts et 18 blessés seront retirés des décombres du bâtiment de la télévision serbe, selon l'agence de presse yougoslave Tanjug.
En fait, encore aujourd'hui dans Belgrade, on peut voir plusieurs bâtiments qui sont toujours en ruine et qui portent les stigmates de ces frappes de l'OTAN. Il y a le ministère de la Défense, mais il y a aussi le bâtiment de la RTS, la télévision d'État serbe. C'est vraiment un lieu qui est symbolique des victimes civiles de ces bombardements, mais c'est aussi un événement qui est controversé, parce que le régime de Milošević est accusé de ne pas avoir fait évacuer le personnel. Alors c'est tout près de ce bâtiment, dans le parc de Tashmajdan, que j'ai rendez-vous avec un anthropologue. Lui, il était adolescent à l'époque des bombardements.
Je suis Aleksandar Obradović, j'ai 39 ans et je suis anthropologue ici à Belgrade.
Ouais, bon, on est à côté du bâtiment de RTS qui est ruiné et n'est pas réparé depuis 99. Et aussi à côté de nous, c'est une plaque des victimes de gens qui ont travaillé cette nuit à RTS. Et cette plaque était fait par des familles des victimes, pas par RTS, donc c'est pas une mémorialisation de l'État ou de par RTS, mais des familles.
Et est-ce que vous diriez que ces événements ils sont encore vraiment traumatiques pour la société serbe?
Oui, c'était un événement traumatique, bien sûr, mais je pense que cette traumatisation prolongée et intentionnel. C'est un projet de le régime pour cacher toutes les autres questions qui sont beaucoup plus importantes, comme l'économie, comme la justice, les fonctionnements des institutions, oppression des médias, oppression des institutions, népotisme. Donc tout ça se cache avec les questions, avec un débat de Kosovo. Et cette question est très utilisée par les régimes pour ça.
C'est peut-être aussi un aspect important, parce que souvent à l'extérieur on oublie que la Serbie elle-même était très divisée, il n'y avait pas un soutien total à Milošević, et ce qui se passait en Bosnie ou au Kosovo, est-ce qu'elle savait aussi ce qui se passait là-bas ?
Serbie a été divisée et c'est encore divisé entre l'Ouest et l'Est, donc il y a une partie de la société qui est pro-européenne et une partie de la société qui est pro-russe. Mais au niveau de la guerre et du rôle de la Serbie dans les guerres yougoslaves, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts de comprendre le rôle de la Serbie dans tout ça. Donc on peut dire qu'il y a un consensus que la Serbie a été une victime, et c'est pas vrai.
Un peu partout sur les murs de Belgrade, on voit beaucoup de graffitis anti-OTAN et anti-américains, et des tags qui célèbrent certains anciens militaires et des paramilitaires serbes, des personnes qui ont été condamnées par la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, on voit aussi beaucoup de slogans en soutien à la Russie de Poutine. En Serbie, la Russie est souvent perçue comme le grand frère orthodoxe et le principal allié politique du pays, surtout par la jeunesse d'extrême droite. Là, je retrouve justement l'un de ces jeunes au crâne rasé qui se disent patriotes et pro-Poutine.
Je m'appelle Dobrica Petric. Je suis né en 1999. Je travaille dans l'information et les technologies, la cybersécurité.
Il est devant une fresque écrite en cyrillique avec la date du 24 mars 1999.
Peut-être que l'on peut pardonner, mais on n'oubliera jamais ce qu'on nous a fait. C'est ce qui est écrit sur ce mur. Ce n'est pas la seule fresque, on a aussi réalisé plusieurs graffitis liés au Kosovo, parce qu'il n'est pas possible d'oublier que les Occidentaux nous ont pris le Kosovo. On ne l'oubliera jamais. Ces peintures murales, c'est l'un de nos nombreux moyens d'informer les gens.
Donc là, depuis quelques mois, il y a des nouveaux graffitis qui sont apparus dans Belgrade, qui disent donc quand l'armée reviendra au Kosovo. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire que tout va s'améliorer pour notre peuple. Il faut juste qu'on attende un peu que le contexte géopolitique change. Le temps de l'hégémonie occidentale et surtout américaine est révolu. Ici, il y a pas mal de gens qui se préparent à une sorte de conflit ou à une éventuelle libération des territoires, de nos territoires occupés. Parce qu'au Kosovo, en ce moment, les droits fondamentaux de notre peuple sont bafoués. Ils ne peuvent que manger, mais ils ne peuvent même pas voyager. Ils ne peuvent pas être soignés. Et la situation empire de jour en jour. Mais tout le monde reste sourd et personne ne parle du peuple serbe. Mais nous, on travaille autant qu'on peut pour changer la situation dans tous les domaines. Pour l'instant, on ne peut pas affronter l'OTAN seul. Je voulais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous pouvez prendre une photo. Là, sur la manche de mon pull. C'est le drapeau de la Nouvelle Russie. C'est un sweatshirt qu'on a confectionné avec notre groupe Jeunesse Serbe. Et là, sous la capuche, regardez. Voilà Poutine.
Ah oui, alors là, Dobrica vient de mettre sa capuche et en sortant de sa capuche, en fait, il y a un masque de Poutine qu'il peut mettre sur sa tête. Alors, qu'est-ce que c'est ce pull, en fait ? Donc, il y a un drapeau rouge avec des bandes bleues, mais il y a aussi une date sur le côté, 1389.
Nous les Serbes, nous avons nos propres marques de vêtements patriotiques. Et c'est par exemple ce pull que je porte. Sur la manche gauche, on peut voir le drapeau de la Nouvelle Russie. Sur le côté droit, c'est l'année de la bataille du Kosovo, 1389, lorsque le prince Lazar a combattu les armées bien plus nombreuses de l'occupant turc. Il a été décapité et c'est un personnage sacré dans notre église. Et donc, dans ma capuche, il y a ce filet à l'effigie de Poutine que l'on peut utiliser comme masque. Il y a d'autres marques qui reprennent tous ces symboles comme Poutine.
Et celui qui peut vous aider pour changer les choses, c'est donc Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine est l'une des personnes qui peuvent nous aider. Mais je pense que si Trump revient bientôt, ce que j'espère vraiment, je pense que la situation pour nous, pour la Serbie, pour le peuple serbe et surtout pour notre peuple au Kosovo, cela va changer. Et on a beaucoup d'amis, les présidents chinois, biélorusses et russes, bien évidemment. Donc je pense que la géopolitique et le temps jouent en notre faveur. Donc on attend et on se prépare.
S'il reste minoritaire, ce discours victimaire et revanchard se fait de plus en plus entendre dans la société serbe. À l'école ou dans les principaux médias, les crimes commis par l'État serbe dans les années 90 et le travail de la justice internationale sont passés sous silence.
Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'arrestation sans effusion de sang cette nuit à Belgrade de Slobodan Milošević. Accusé de corruption, il a été placé pour 30 jours en détention préventive. La communauté internationale considère que c'est une première étape nécessaire, mais qu'il faudra que l'ancien dictateur réponde de crimes de guerre et contre l'humanité devant le TPI.
Bien peu de jeunes Serbes ont entendu parler du génocide de Srebrenica en Bosnie ou des massacres commis au Kosovo. Mais quelques universitaires et une partie de la société civile tentent de remédier à cette amnésie généralisée. Comme avec cette exposition en forme de labyrinthe. Après Belgrade, elle sera présentée à Zagreb en Croatie, puis Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et les autres capitales de l'ancienne Yougoslavie.
Oui, je suis Dubra Kastojanović, je suis historienne, prof à la faculté de philosophie ici à Belgrade, département d'histoire. La chose la plus importante qu'il veut dire, c'était que sommes nous les victimes les plus grandes. Alors, Holocauste, ça n'existe pas, Srebrenica, ça n'existe pas, et tous les autres épisodes de Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc., etc. Alors, c'est que les Serbes, alors c'est une philosophie d'histoire qui est paranoïque, qui est xénophobe, qui est complètement fermée. Alors on voit que soi-même, et grâce à ça, vous êtes complètement, vous vous séparez du monde entier. Alors vous vivez dans une fantaisie qui n'est plus réelle. Vous ne voyez pas les victimes des autres, vous ne voyez pas ce que la Cour internationale a décidé. Ça ne vous intéresse plus, vous vivez dans votre fantaisie et à cause de ça, on a beaucoup de problèmes politiques parce qu'on est complètement isolé du monde réel et du monde entier.
Et ça vous inquiète pour le futur ? Parce que là, on se trouve dans un labyrinthe. Quand on se balade dans l'exposition, effectivement, on ressent ce côté enfermement dans le labyrinthe. On a l'impression que les sociétés ex-yougoslaves ne sont toujours pas sorties.
Mais voilà, c'est pour cela qu'on a fait le labyrinthe. On a pensé plus qu'un an quel est le message le plus fort. Et à la fin, c'était l'idée de Igor Stix qui a dit « mais il faut construire un labyrinthe ». Parce qu'on est toujours là-bas, on est toujours dans cette décade de 90. On n'a pas sorti, mais la question est, est-ce qu'on veut sortir? Est-ce qu'on peut sortir?
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.